Je pense que la situation en Guyane, Guadeloupe et Martinique, et surtout en Guadeloupe, est beaucoup plus grave qu'à La Réunion. La Guadeloupe était lancée dans sa grève dure. Ici, il y avait quelques signes d'ébullition sociale. Finalement, c'est l'évolution à la Guadeloupe, l'obtention entrevue des 200 euros mensuels pour les salaires les plus bas et les déclarations de Yves Jégot, secrétaire d'État à l'Outre-mer, qui ont créé des circonstances locales favorables pour que la Réunion ne soit pas à la traîne et qu'elle puisse bénéficier des mêmes avantages accordés à la Guadeloupe.
Est-ce que vous êtes confiant quant à la résolution rapide de ce conflit social ?
Comme les revendications du collectif étaient connues, le préfet a pu anticiper sur certains chapitres, et puis il a pu annoncer déjà certaines mesures le soir même de la grève, et ce vendredi 6, trois commissions ont été mises en place, et elles regroupent les divers partenaires socio-économiques. Et le dialogue social est rouvert, dans un climat, on pourrait dire, où les uns et les autres sont à l'écoute. Mais la pression sociale est maintenue avec l'annonce d'une grève reconductible, une grève pour le mardi 10 mars. Mais ce que je constate, c'est que tous sont d'accord pour ne pas laisser traîner la crise.
Est-ce que la situation est identique à celle des Antilles, ou en toile de fond du conflit, il y a le problème des inégalités entre la population de souche et les béquets, ou est-ce que la situation est différente à La Réunion ?
De ce point de vue-là, la situation n'est pas la même. L'île de La Réunion était une île déserte, ce qui n'était pas le cas des Antilles. Personne n'a la revendication sur l'antériorité du sol. Et notre population est une population métisse. Donc, fondamentalement métisse, nous sommes tous des métisses culturels. Et presque nous tous, nous sommes descendants à la fois d'esclaves et d'esclavagistes, ce qui crée une situation, je dirais, différente de celle des Antilles du point de vue identitaire.
Quel est le rôle et la voix de l'Église dans ce conflit, dans cette crise économique et sociale ?
L'Église n'a aucune ambition au niveau du pouvoir politique. L'Église a aussi le devoir de s'intéresser à la vie sociale, à la vie économique, à la vie politique, de telle manière que ce soit la dignité humaine qui soit au centre de tout. Et de ce point de vue-là, le grand principe, c'est le principe de subsidiarité. C'est-à-dire que ce qui peut être géré au niveau inférieur ne doit pas remonter au niveau supérieur. Et que localement, nous avons déjà des potentialités. Il faut que les personnes soient valorisées, qu'on leur fasse confiance et que nous devenions de plus en plus responsables de notre avenir et de notre communauté de destin. Et en tant qu'évêque, moi j'interpelle aussi les hommes politiques. Parce qu'il n'est pas normal que dans des situations de crise, dans des situations difficiles du point de vue social et économique, que ce soit des collectifs qui mènent la politique. La fonction politique doit être un carrefour qui permet de mettre en relation les partenaires sociaux et économiques pour que le dialogue soit habituellement possible et qu'on n'attende pas la crise pour regarder les problèmes en face.